Le concept de pédopsychiatrie de liaison est un concept relativement récent, peut-être pas forcément clair dans tous les esprits, et c'est pour ça que ça me paraît très intéressant qu'avec Pierre Canouy, on puisse donner quelques éléments de compréhension du concept et de notre action ici à Necker. Il existe aussi une psychiatrie de liaison concernant les adultes, mais évidemment dans le cadre de cet entretien, peut-être qu'on abordera seulement la question de la pédopsychiatrie de liaison. Derrière le terme de liaison, je crois qu'il faut entendre à la fois la liaison entre les services de pédiatrie, et l'action des services de pédiatrie et notre action, et puis il faut, de manière sous-jacente, entendre la question de la liaison, des processus de liaison entre le corps et la psyché. Peut-être qu'on y reviendra en fin d'entretien à propos de ce qu'on pourrait appeler une théorie de la pédopsychiatrie de liaison.
Alors, qu'est-ce que c'est que la pédopsychiatrie de liaison, si on peut en donner une définition, hein? Une définition simple, c'est de mettre au service de l'hôpital et des différentes équipes hospitalières, obstétriques, chirurgie, médicales aussi, réanimation, des spécialistes de santé mentale. Psychologues, pédopsychiatres, infirmières de psychiatrie, comme on va le voir tout à l'heure. Mais aussi, je crois qu'il y a une autre idée, qui est l'idée de transversalité. C'est-à-dire que la transversalité n'est pas seulement une transversalité géographique, ni une transversalité qui est une manière de mettre une économie de moyens en faisant des économies. Mais je crois que la question de la transversalité, c'est le fait que chacun, avec sa spécificité, devient ou se révèle incapable de résoudre le problème posé. En revanche, chacun, avec sa spécificité, et en partageant avec l'autre, et en s'appuyant sur l'autre, et en s'écoutant avec l'autre, peut résoudre le problème posé par une médecine de plus en plus scientifique, de plus en plus technique, de plus en plus à risque aussi, mais aussi une médecine qui s'interroge sur ses limites.
Mais peut-être que d'un point de vue historique, il est bon de rappeler que dans la collaboration entre les pédopsychiatres, les psychologues d'enfants, les psychanalystes d'enfants et les pédiatres, les équipes pédiatriques, il y a au fond trois grands temps au cours des dernières décennies. Il me semble qu'en France, le premier grand moment de rencontre entre les soignants du corps et les soignants de la psyché autour de l'enfant se situe dans les années 60, 70, avec notamment à Saint-Vincent-de-Paul tous les travaux de Léon Kressler, Michel Soulet, autour de l'enfant et son corps. Hein. Le livre « L'enfant et son corps » a été un livre un peu emblématique de cette période, où c'est vraiment la découverte de ce qu'on a appelé la psychosomatique précoce, probablement parce que les pédiatres, après la Deuxième Guerre mondiale, ont commencé à dominer un certain nombre de techniques, à être un petit peu plus détendus sur le pronostic vital d'un certain nombre d'enfants, et qu'ils ont pu commencer à s'interroger avec les psys sur la question du bien-être, bien sûr, psychique des enfants malades, mais aussi sur les composantes, sur les déterminants psychologiques de la maladie somatique. Et il y a là tout un premier mouvement de réflexion extrêmement, extrêmement féconde. Il me semble que le deuxième grand temps de rencontre, c'est plus tard, dans les années 80-90, ce qu'on pourrait appeler le démarrage de la psychiatrie périnatale, avec autour de l'enfant, là, une collaboration extrêmement, tout à fait transdisciplinaire, avec bien sûr des psychiatres, psychologues, psychanalystes d'enfants, mais aussi des pédiatres, des obstétriciens, des gynécologues, des endocriniens, des travailleurs sociaux, enfin tout le tissu professionnel nécessaire à la question de la maternité puis de la parentalité. On est encore dans ce mouvement-là, mais là, il y a un deuxième thème de travail très très fort, de collaboration très forte entre soignants du corps et soignants de la psyché. Et puis le troisième thème de rencontre, dans lequel on est également en ce moment, mais qui est au cœur de la question de la liaison, c'est tous les enjeux psychologiques et psychopathologiques de ce qu'on appelle les biotechnologies modernes. Et les enfants en pédiatrie, dans les services de réanimation intensive, dans les services de néonatologie très high-tech, posent un certain nombre de questions quant à leur développement psychoaffectif. Et il y a là aussi un troisième thème de rencontre tout à fait porteur. Alors, je crois que c'est dans ce mouvement-là que la pédopsychiatrie de liaison s'est développée. la situation en France a toujours quelques spécificités, donc on peut imaginer que par rapport à d'autres pays, le développement des secteurs a pu également amener les pédopsychiatres, les psychologues, les psychanalystes d'enfants à vouloir exporter un petit peu leur conception en dehors du service de psychiatrie proprement dit, pour aller travailler avec les collègues somaticiens. C'est possible, c'est une question intéressante, mais de toute façon, le concept de psychiatrie des gens s'est développé dans le monde entier de manière importante, et on ne peut pas le rattacher sans doute uniquement à cette question du secteur de psychiatrie infanto-juvénile en France. À Saint-Vincent-de-Paul, une structure en étoile s'était mise en place qui, je crois, était tout à fait intéressante. Et quand mon service a été transféré de Saint-Vincent-de-Paul à Necker, la question a évidemment été de remettre en place à Necker une structure de ce type ou analogue. Necker a sa propre histoire, et je pense que Pierre Canouy va en dire quelques mots concernant la pédopsychiatrie de liaison. Ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que sans doute, un certain nombre de pédiatres se seraient satisfaits de simplement déployer la pédopsychiatrie de liaison sans forcément remettre en place un service de pédopsychiatrie complet. Il me semble que la pédopsychiatrie de liaison est une composante importante d'un service de pédopsychiatrie. Le service de pédopsychiatrie ne peut pas se résumer à la pédopsychiatrie de liaison, mais en revanche, la pédopsychiatrie de liaison peut tirer un très grand profit de l'activité générale d'un service de pédopsychiatrie, et sans doute on y reviendra dans la dernière partie de cet entretien. Une des choses qui m'ont beaucoup motivé à Necker, c'est de repenser la pédopsychiatrie de liaison non seulement comme une action qu'on a, comme une collaboration tout à fait nécessaire et utile qu'on a à avoir avec les collègues dans les services de pédiatrie, mais aussi peut-être comme un champ d'action spécifique qui permettrait de développer une théorie véritablement de la pédopsychiatrie de liaison, c'est-à-dire une articulation des modèles pédiatriques et des modèles psychopathologiques dont l'intrication est un reflet des liens qui existent entre le fonctionnement corporel et le fonctionnement de la psyché chez l'enfant. Je dirais simplement que pour l'instant, pour le public francophone en tout cas, il y a seulement deux grands essais de théorisation de la pédopsychiatrie de liaison. C'est pour la psychiatrie de liaison. Pour la psychiatrie de liaison adulte, c'est les travaux de Consoli, en particulier à l'hôpital Georges Pompidou. Et pour la pédopsychiatrie de liaison, c'est essentiellement en Belgique les travaux de Jean-Yves Vaillez. Dans les hôpitaux pédiatriques belges. Voilà, mais peut-être que Pierre pourrait reprendre un petit peu la question de l'historique de la pédopsychiatrie de liaison à Necker.
Alors, je crois que la pédopsychiatrie de liaison ne peut se penser que rattachée à un service de pédopsychiatrie. Tant que tu n'étais pas arrivé ici sur le site, je crois qu'on était dans une pédopsychiatrie qui était essentiellement une pédopsychiatrie au service d'eux, mais insuffisamment structurée, j'en parlais tout à l'heure. Les points historiques qui me paraissent importants sur Necker, il y a quand même historiquement la néphrologie, avec Ginette Rimbaud, qui a écrit un livre qui est la clinique du réel, qui est effectivement, avec le titre, marque la caractéristique de la pédopsychiatrie de liaison, c'est-à-dire l'irruption d'un réel douloureux, compliqué, chez l'enfant, et pour lesquels la maîtrise rationnelle d'une médecine scientifique ne peut pas suffire. Alors, et puis Daniel Rapoport aussi, qui a écrit des livres tout à fait importants. Mais
quelqu'un comme Pierre Royer,
Pierre Royer a été aussi décisif. Mais je dirais plus, de façon plus ponctuelle, je voudrais rendre hommage à quelqu'un sur la pédopsychiatrie de liaison, qui est Michel Clou. Michel Clou, qui est le créateur du service de réanimation, et qui, dès les années 70, a fait venir des psychologues et des psychiatres dans un service de réanimation, ce qui était tout à fait innovant. Et pourquoi ? Je crois qu'ils en étaient à un moment de leur histoire en réanimation, et peut-être dans Bonne Discipline, où ils étaient dans les moments de leur histoire, non plus des grandes découvertes de la médecine pédiatrique, mais du moment de l'évaluation. L'évaluation de leur efficacité, mais aussi de l'impact que ça avait sur la psyché.
Et de la qualité de la survie.
Et je crois que là, il y a un point de réunion qui s'est fait à ce moment-là et qui a créé petit à petit une installation et puis d'autres services de médecine de l'enfant, de l'adolescent, du bébé se sont intéressés à ce problème-là. Et ça, je crois que c'est un point très, 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 très crucial, un questionnement que se posaient les pédiatres sur la qualité de vie des enfants, et aussi des familles, mais aussi sur ce qu'ils faisaient aussi. Et la pédopsychiatrie est une petite pierre qui apporte une petite pierre de l'édifice par rapport à cette appréciation.
D'une certaine manière, la pédopsychiatrie des enfants, je reprends ce que tu disais pour Necker, a émergé dans des services en réanimation, donc, où justement le fonctionnement conscient de l'enfant était un petit peu mis en veilleuse, en général pour des raisons médicales graves, et où il y a probablement un impact de l'inconscient de l'enfant sur l'inconscient des adultes. Qui s'est montré très fort.
Est-ce
qu'on peut y voir une racine de quelque chose?
C'est pas un hasard si un des premiers travaux que j'ai fait ici, c'est quand même sur la souffrance des soignants. C'est-à-dire sur ce retentissement de ce silence de l'enfant malade, inconscient et ne communiquant pas, qui évoquait chez les adultes une souffrance ou une inquiétude quant à la souffrance qui pouvait retentir. Et donc il y a deux pôles sur lesquels on a beaucoup travaillé, qui étaient la douleur aiguë, alors qu'on avait travaillé sur la douleur chronique chez l'enfant depuis des années en cancérologie pédiatrique, et puis sur la souffrance des soignants et aussi celle des parents.
C'est pour ça que ce serait très dommage, on y reviendra sans doute à propos de la théorie de la liaison, ce serait très dommage de réduire la pédopsychiatrie de liaison simplement à un système d'organisation des actions entre les pédiatres et nous. Ça va bien au-delà là, parce qu'il y a tout le poids justement des fantasmes et de l'inconscient qui est derrière et qui nous pousse à cette collaboration.
Dans ce sens-là, la polysémie du mot lien, on peut la creuser dans multiples. Tu as commencé à le faire en disant le lien entre psyché et soma. D'accord. Le lien entre normal et pathologique. Le fait que quand on est dans une situation de maladie, on n'est pas simplement dans une situation de maladie qu'il va falloir extirper par un geste extérieur, mais que l'enfant porteur de maladie est autre dans son fonctionnement somatique, mais autre aussi dans son fonctionnement psychique. Et dans ce sens-là, ça nous demande, à nous, pédopsychiatres de liaison, un travail très particulier qui n'est pas simplement le travail de prestataire de service. Les psychologues, les pédopsychiatres qui travaillent dans ces liaisons ne sont pas des prestataires. Et s'ils n'étaient que des prestataires de service, d'abord, ils ne pourraient pas travailler. Deuxièmement, ils ne seraient pas efficaces. Et troisièmement, on verrait leur fonction réduite, je dirais, à un diagnostic de DSM-4 qui est un outil qui est peu utilisable, mais ça on y reviendra peut-être tout à l'heure.
Mais alors permets-moi de dire une chose à l'appui de ce que tu viens de signaler là, c'est qu'effectivement la pédopsychiatrie de liaison, c'est pas simplement le samedi après-midi ou le dimanche quand il n'y a personne dans les services aller s'occuper d'un enfant qui délire ou qui s'agite. C'est un aspect des choses, mais c'est vraiment le dessus, la surface du problème. Le vrai travail, c'est d'arriver, à propos des enfants en difficulté somatique et en souffrance psychique, à conjoindre nos modèles. Et c'est vrai que le modèle pédiatrique et le modèle psychopathologique ne sont pas les mêmes. Le modèle pédiatrique est un modèle médical, il n'y a aucun reproche dans cette constatation. C'est un modèle linéaire, c'est un modèle qui doit fonctionner rapidement, c'est un modèle qui est principalement déductif à partir d'un certain nombre de signes. On demande au pédiatre le plus vite possible d'établir un diagnostic et un traitement efficace. Alors que nous ne travaillons pas comme ça, nous ne pouvons pas travailler comme ça, ce n'est ni mieux ni plus mal, c'est autre chose. Notre modèle est polyfactoriel, il est nécessairement lent parce que nous avons à nous laisser d'abord toucher au niveau des émotions d'ailleurs en particulier, parce qu'il vient de la situation clinique et on ne peut pas tellement accélérer les processus là, qui ne sont pas des processus déductifs mais qui sont des processus inférentiels, et donc il nous faut souvent du temps, il faut laisser du temps au temps pour que les idées viennent du ressenti. Notre clinique est fondamentalement contre-transférentielle. Nous ne sommes pas, c'est pas que les psys sont plus lents que les autres, mais c'est que le modèle psychopathologique n'est pas le même. Et de ce fait, moi ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est qu'on a effectivement un bout de chemin tout à fait faisable avec les collègues somaticiens, mais il y a un moment où les modèles divergent, et l'idéal de la pédopsychiatrie de liaison, moi là je reprendrai un petit peu ce que Winnicott disait à propos de la santé mentale, l'idéal de la pédopsychiatrie de liaison, c'est pas l'absence de divergence. C'est peut-être l'absence de conflit, parce que les conflits sont souvent des conflits de personnes, ou des conflits narcissiques qui ne servent à rien, qui ne renseignent pas sur la situation, mais les divergences entre un pédiatre et un psy sont tout à fait instructives, si elles sont faites dans le respect, la légitimité et et l'estime réciproque, ces divergences sont informatives sur ce qui se passe au niveau même de l'intégration psychosomatique du bébé. Donc c'est là-dessus qu'on doit pouvoir travailler. Alors il faut beaucoup de temps pour établir des alliances respectueuses entre pédiatre et psy, mais c'est là, je crois que c'est là le vrai chemin de la pédopsychiatrie de liaison.
Absolument.
C'est arriver à mettre en perspective nos modèles, à respecter nos différences et à travailler sur nos divergences comme un outil qui nous renseigne sur les conflits qui se jouent au niveau même de l'enfant.
Alors, si on revient sur le terme lien, c'est vrai qu'il y a aussi des liens qu'il faut qu'on établisse avec les pédiatres. Et on ne peut travailler que dans la mesure où, dans ces manières de fonctionner un petit peu différentes, mais utiles, il y a le problème de la temporalité, qui est fondamentale. On a des temporalités différentes. Non pas parce que nous, psychiatres, nous avons une temporalité différente, parce que le temps psychique est différent du temps
circulaire, de la maladie. L'après-coup.
Absolument. Et ce lien, je reviens sur le mot lien, on ne peut lier, délier, relier que dans la mesure où nous sommes en lien, je dirais, presque affectif avec nos collègues pédiatres.
C'est-à-dire la pédopsychiatrie de liaison est un soin du lien, dans le lien et par le lien.
Et par le lien. Dans lequel le mot confiance est absolument fondamental, même si on ne comprend pas tout. Hein. Ça nous renvoie aussi à une psychopathologie un petit peu basique pour nous, pédopsychiatres. C'est-à-dire qu'avant d'aller dans l'explication ou l'interprétation sur lesquelles les jeunes internes se précipitent souvent un petit peu vite, on a besoin de faire ce que tu disais, c'est-à-dire faire ce travail de compréhension empathique du vécu subjectif de l'autre avec des modèles de fonctionnement psychique qui nous sont très étrangers. L'exemple, très simple, une mucoviscidose, un enfant atteint de mucoviscidose, un adolescent doit faire sa kiné une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour. C'est pas simplement l'introduction dans sa vie d'un geste quotidien comme s'il devrait se laver les dents et être normal à côté. Il y a l'introduction de ce simple injonction, tu feras trois soins par jour qui vont prendre deux fois ou trois fois 20 minutes. C'est un changement de perspective de toute sa vie. Et ça, ça peut mettre, et ça met l'enfant ou l'adolescent surtout, dans une situation de rupture, de difficultés et de nouvelles manières de voir sa vie pour lesquelles la réponse médicale est insuffisante.
Dans la pédopsychiatrie de liaison, il y a deux grands registres de questionnements différents. Il y a celui dont on vient déjà de parler, qui est le retentissement psychique d'un certain nombre de maladies, d'affections somatiques et des soins et des explorations qui vont autour. Et il y a une deuxième préoccupation quand même de la pédopsychiatrie de liaison, qui est pour certains enfants, les pédiatres nous demandent d'apprécier la composante psychologique, éventuellement impliqué dans le déterminisme de la maladie. C'est un autre point de raisonnement. Et je voudrais à ce moment-là dire que, alors pas seulement en France, mais au-delà, on a eu, dans l'histoire de la pédopsychiatrie, il y a eu deux grands courants. Il y a toute une série de personnes qui, un petit peu comme dans le domaine de la psychosomatique adulte, avec les travaux d'Alexander aux États-Unis, se sont dit, mais au fond, est-ce qu'on pourrait trouver une personnalité prémorbide, oui, particulière chez les enfants qui vont faire une maladie néphrologique, une maladie cardiologique, une maladie hématologique? Est-ce qu'auparavant, il y a déjà quelques facteurs de risque sur le plan psychologique ou psychopathologique? C'est une voie qui, en ce moment, a été tout à fait délaissée et qui, finalement, ne donne pas grand-chose. En revanche, les travaux plus globaux d'Anna Freud, de Tessie Berman par exemple en Angleterre autour de l'enfant malade reste très intéressant aujourd'hui, qui est dans l'idée de rechercher des particularités prémorbides chez les enfants, mais d'essayer de lire la maladie somatique en l'intégrant dans le contexte existentiel de l'enfant, à travers les notions de séparation, à travers les notions de souffrance physique et psychique, etc. Et avant que tu décrives un petit peu ce qui a été mis en place à Necker, je voudrais rappeler les travaux en France, alors pour y revenir, les travaux de Philippe Buton, qui ont été extrêmement intéressants quand il nous a appris à lire, au fond, la maladie pédiatrique selon trois registres, la maladie des faits, pédiatrique eux-mêmes, l'histoire naturelle de la maladie pédiatrique, les événements pédiatriques. Bon. Ensuite, un deuxième niveau, déjà plus psychologique, mais encore un petit peu linéaire, qui est de dire, d'essayer de relier les difficultés psychiques de l'enfant aux événements de la maladie pédiatrique. Si une hospitalisation peut donner lieu à une dépression, une désexploration ou des traitements douloureux peuvent donner lieu à des angoisses. Donc, dans une espèce de causalité un petit peu directe entre les événements pédiatriques et les événements psychologiques. Mais le troisième niveau de lecture, évidemment celui qui est le plus intéressant pour les psychanalystes, était de rechercher, selon Philippe Couton, de rechercher le vécu particulier qu'une maladie suscite chez un enfant et dans sa famille. Et de ce point de vue-là, c'est toute la théorie de l'après-coup qui est là. Un même événement pédiatrique ne donne pas la même chose chez tous les enfants, ne suscite pas les mêmes associations de pensée dans les familles. Et il y a là un travail vraiment qui fait partie intégrante de la pédopsychiatrie de liaison, je crois, et qui permet d'introduire la dimension psychopathologique, psychanalytique dans nos réflexions avec nos collègues.
Tu dis quelque chose qui m'évoque l'histoire des familles. Qu'est-ce que reprochent les familles au niveau de l'information et au niveau des relations avec les médecins en général? Ils reprochent le manque d'information, d'accord. Mais derrière ça, ils ont envie qu'on écoute leur propre histoire de leur maladie, de la maladie. Même si l'enfant est atteint d'une méningite, d'une leucémie, peu importe. Et on n'est pas dans de l'ethnopsychiatrie, hein. C'est-à-dire que chaque famille a son histoire propre de la maladie qui s'est organisée sur souvent toute son histoire personnelle. Et on a besoin d'entendre ça. Et ce n'est pas à nous de l'entendre. C'est à nous d'aider les pédiatres à être capables d'entendre cette histoire parce que cette histoire, elle est adressée aux pédiatres. Et c'est pour ça que ça ouvre sur une autre action de la pédopsychiatrie de liaison. C'est-à-dire que la pédopsychiatrie de liaison a une action peut-être ou un essai d'action au niveau de l'enfant, au niveau de la famille, mais aussi par procuration. Et pour moi, c'est une action extrêmement importante que les psychologues, les psychiatres, tous les psys en général, puissent donner aux médecins, aux infirmières, aux internes, aux étudiants, des outils de compréhension pour qu'eux puissent les utiliser. Ce travail par procuration est un axe absolument essentiel parce que c'est probablement ça qui nous permettra de sortir de l'action, ce que j'appelle du psy-pompier, c'est-à-dire...
Ce que tu dis de l'histoire des familles, d'ailleurs, relativise beaucoup la notion de stress, le syndrome de stress post-traumatique, hein, qui est
absolument
purement quantitative et qui est très linéaire et qui ne prend pas en compte les particularités de chaque groupe. Peut-être là tu pourrais dire un mot de ce qui a été mis en place à Necker. Je dois dire d'ailleurs que l'hôpital Necker, finalement, s'est montré très sensible à tout ce que nous essayons de dire là, puisque Pierre Canouille a obtenu un poste de praticien hospitalier à mi-temps pour coordonner la pédopsychiatrie de liaison sur le site. Je crois que c'est une reconnaissance de fait et de droit de cette discipline et de ton action. Et il est peut-être temps de dire comment les choses se sont organisées ici.
Alors, les choses ont pu s'organiser grâce à la venue de ton service. C'est clair. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai pu ce que j'avais pensé depuis plusieurs années, grâce à ta venue, à ton aide, à ton appui, mettre en place un petit peu, même mettre en place une présence pédopsychiatrique régulière et une réponse à la demande des services. Concrètement, c'est relativement simple. Il y a un numéro de BIP, un numéro de BIP auquel répond dans la demi-journée, quelquefois la journée, mais le plus souvent la demi-journée, un interne de pédopsychiatrie qui sont des internes ayant une compétence déjà souvent en fin de parcours d'internat qui viennent se former ici dans le service, sur toutes les spécialités du service, mais aussi de pouvoir répondre donc à la demande rapidement dans le service et puis de travailler en collaboration avec les psychologues. Je crois que c'est les deux axes très importants, c'est-à-dire
avec les psychologues des services.
Je crois que là, on a encore des progrès à faire, mais je crois que c'est un axe qui est fondamental. C'est-à-dire que chaque service est doté d'une ou deux psychologues qui travaillent dans le service, et nous avons des fonctions très complémentaires. On ne peut pas travailler sans les psychologues des services, on ne peut pas travailler sans les équipes médicales pédiatriques. Eh bien, je crois que les internes de pédopsychiatrie et les seniors qui les supervisent travaillent en collaboration avec ça. Ouais. Alors, l'organisation, elle est relativement simple. Donc, il y a un numéro de BIP qui permet de répondre rapidement à la demande et de pouvoir prévoir une réponse, soit ponctuelle, au niveau de l'enfant, au niveau de la famille, au niveau de l'équipe, une prise en charge et une orientation.
Est-ce que je peux revenir un instant sur ce que tu disais, la collaboration entre psychologue et pédopsychiatre? Parce que, effectivement, la question de la complémentarité est essentielle. Parfois, il peut y avoir quelques résistances, bien entendu, mais en réalité, à la fois, le travail des pédopsychiatres de liaison n'enlève rien au travail des psychologues, bien entendu. Et ce n'est ni son ambition, ni même sa possibilité. Mais en revanche, il y a une question difficile à laquelle il faut vraiment réfléchir. C'est dans quel cas un service de pédiatrie considère que l'intervention d'un pédopsychiatre est nécessaire en complément de l'action de ça ou de ces psychologues. C'est une question plus difficile qu'il me paraît.
Alors j'ai pris le parti d'a priori de ne pas interroger cette question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait une question, une demande qui était faite
au pédopsychiatre,
d'aller et de voir et de parler.
Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais je dis qu'on peut y aller en essayant de comprendre pourquoi là, on appelle au pédopsychiatre et parlant d'autres cas.
Oui. Parce que là, je crois qu'on a devant nous tout l'éventail de la psychopathologie de l'enfant, de la psychopathologie de l'adolescent, de la famille, et de la psychopathologie de l'institution.
Oui, mais tu as raison. Mais moi, je pense que si on veut aller plus loin dans cette question-là, il faut se dire que les pédiatres, quelque part, sont sensibles à nos différences de formation. Et la formation des psychologues et la formation des pédopsychiatres n'est pas tout à fait la même, parce que les racines de leur vocation ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Et actuellement, les psychologues sont dans beaucoup d'endroits extrêmement bien formés. Je dois dire d'ailleurs parfois tout aussi bien, voire mieux formés en psychopathologie que ne sont les étudiants en médecine, les psychiatres et les pédopsychiatres. Mais le trajet professionnel, le trajet de la formation professionnelle des psychologues, qui s'enracine dans des vocations un peu différentes, n'est probablement pas le même. Et c'est-à-dire que dans nos trajets, nous n'avons pas mis le corps au même moment. Alors, en pédopsychiatrie de liaison, il se trouve qu'on se rejoint. Mais quelqu'un qui choisit de faire médecine met le corps au début de sa trajectoire professionnelle. Quelqu'un qui choisit d'être psychologue ne le met pas tout de suite et pas tout à fait au même moment. Et pourtant, on va se rencontrer en pédopsychiatrie de liaison. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose à quoi le pédiatre, sans forcément que ce soit explicite dans son point de vue, est sensible. Parce que moi, je serais très ennuyé si le pédiatre me répondait « mais j'appelle le pédopsychiatre chaque fois que je pense qu'il y a besoin d'un psychotrope ». Peut-être que le pédopsychiatre peut prescrire des psychotropes et que la psychologue ne le peut pas. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on a envie de fonder notre identité professionnelle. Notre identité professionnelle, elle vient plutôt du fait qu'on n'a pas mis le corps au même moment dans notre trajectoire professionnelle et qu'à ce moment-là, notre vision d'évaluation n'est pas tout à fait la même. Et que le pédiatre a probablement besoin, à certains moments, d'une évaluation double. D'une évaluation par la psychologue et d'une évaluation par le pédopsychiatre qui sont un petit peu différentes de ce point de vue-là. Je crois qu'il le sent et qu'on a peut-être, c'est notre travail dans les années à venir, peut-être à lui faire expliciter ce qu'il ressent, je crois, parfois assez justement.
Tout à fait. La manière dont on a pensé cette cellule de pédopsychiatrie de liaison, c'est, et qui a été déterminante dans l'organisation ici, c'est-à-dire de pouvoir nous donner tous les jours un temps de réflexion sur le travail et sur l'action. C'est-à-dire que tous les matins, un ou deux seniors sont là avec les internes qui ont vu les différentes situations dans la journée pour aborder les situations difficiles. C'est à mon sens le noyau du travail de pédopsychiatrie de liaison. Alors, les seniors à différents niveaux, je dirais le
senior. C'est le noyau parce que ça met un petit peu d'après-coup dans l'action.
Voilà. Justement. Il y a un ou deux seniors qui sont là régulièrement, dont moi, tous les matins. Et puis, une fois par semaine, on invite d'autres seniors qui travaillent sur l'hôpital de venir réfléchir avec nous pour nous donner un petit peu ces deux ou trois coups de réflexion dont tu parlais. C'est-à-dire qu'on a besoin de prendre la distance par rapport justement à ce réel de la maladie qui nous oppresse tous, à un premier degré, et on a besoin de prendre à un deuxième degré aussi, grâce à ceux qui sont encore plus extérieurs, qui sont pas le nez dans l'action directement comme tu peux l'être en tant que chef de service, et nous donner aussi une deuxième, je dirais, ou troisième, ou énième perspective face à ces problématiques qui sont quoi ? Qui sont des problèmes de limitation de nos actions, qui sont des problèmes d'impuissance face à la maladie, qui sont des problèmes face à la mort, qui sont des problèmes face à la perte de la maîtrise rationnelle et que malgré la maladie qui envahit l'enfant, eh ben il faut vivre quand même. Et je crois que cette vie qui est au cœur d'un hôpital d'enfants ici, elle peut être difficile à penser, à concevoir, et on a besoin de plus qu'une simple psychopathologie. C'est ça aussi qui m'intéresse dans la pédopsychiatrie de liaison, c'est-à-dire qu'on est au-delà ou en deçà, je ne sais pas, de la psychiatrie ou de la psychopathologie, on est dans l'existence de la vie.
Mais alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'essaie de venir une fois par semaine à cette réunion du lundi pour nous, mais je n'ai pas bien compris si en tant que chef de service, tu me mettais du côté des oppressés par l'action ou du côté de ceux qui peuvent introduire un petit peu de recul.
Alors, je ne te vois pas comme chef de service dans ces réunions de psychiatrie de liaison, mais je te vois comme Bernard Goltz, qui n'est pas tous les jours confronté à la pédopsychiatrie de liaison et qui met en route ta pensée, ta réflexion et tes associations pour nous stimuler. Le senior peut être tout à fait une psychologue ou... et d'ailleurs, quand les psychologues viennent dans ces réunions du matin, elles interviennent en tant que senior. Elles n'interviennent pas en tant que... les seniors, c'est un terme qui met en exergue une compétence, une expérience et je dirais une distance par rapport à l'interprétation un petit peu hâtive qui est souvent le prérogatif des jeunes.
Je m'aperçois qu'au fil des propos qu'on tient là ce matin, il y a une thématique qui affleure, qu'il faut signaler. Bon, je crois que c'est une thématique compliquée, on va pas pouvoir la résoudre véritablement aujourd'hui, mais qui est la suivante, c'est que les pédopsychiatres sont des hommes ou des femmes, alors que les psychologues dans les services sont le plus souvent des femmes. Et c'est une situation de fait qui a un impact, qui a des conséquences, qui est agissante. Et notamment au niveau des pédiatres. Je crois qu'un pédiatre n'écoute pas de la même manière ce que dit une psychologue et ce que dit un pédopsychiatre, et nous avons nous aussi à en tenir compte, dans ce que sans doute quelqu'un comme Didier Houzel d'ailleurs appellerait une bonne intégration, une intégration suffisante de notre propre bisexualité, la bisexualité psychique de chacun d'entre nous et la bisexualité psychique des liens qui sont entre nous. Et je crois que tu parlais de complémentarité tout à l'heure, la qualité de nos liens entre psychologue femme et pédopsychiatre homme ou femme, c'est un sujet très complexe, mais de cette qualité-là dépend l'efficacité de la pédopsychiatrie.
Absolument.
Donc, chaque fois qu'on sera dans le clivage, nos collègues somaticiens s'engouffreront dans la brèche.
Il faut qu'on sache utiliser ce que, d'un certain point de vue, on peut voir comme des caractéristiques secondaires, c'est-à-dire qu'on soit homme ou femme, et qui en fait deviennent des caractéristiques essentielles pour avoir une action, pour avoir un impact dans notre action. Et je crois que c'est à nous de l'utiliser. Et c'est à nous de savoir utiliser ce qui peut devenir une force.
Comme quoi, tout n'est pas sexuel, mais il y a du sexuel dans tout.
Cette organisation interne, senior, psychologue, va être étayée par un souhait que j'ai depuis très très longtemps et qu'on va enfin pouvoir réaliser, c'est-à-dire la présence d'une infirmière de pédopsychiatrie de liaison.
Donc avec un rôle transversal.
Qui va avoir, elle, un rôle transversal, qui va, comme les seniors psychiatres et psychologues, être inscrite dans le temps, et non pas dans le stage de 6 mois des internes, qui est riche pour nous, pour les équipes, mais qui en même temps crée une rupture dans la prise en charge, et surtout qui va permettre d'inventer une nouvelle manière de fonctionner. Et là, on est un petit peu regardé avec des yeux attentifs par la direction, parce que je crois qu'on innove une nouvelle manière de fonctionner. Une des fonctions de l'infirmière de pédopsychiatrie va être effectivement de soutenir et d'étayer l'action des infirmières dans les services de médecine. Parce qu'il est vrai que dans certaines situations où la psychiatrie, dans sa symptomatologie et dans ses troubles, va faire une émergence importante au sein de la maladie somatique, les infirmières prises dans une charge de travail importante ont besoin d'une part d'être soutenues au niveau du temps, mais au niveau aussi de la compréhension des troubles. Et là, on a besoin, c'est pour ça qu'on a choisi quelqu'un qui est formé à la psychopathologie.
Alors, je voudrais dire juste une chose à ce sujet, c'est que effectivement, pour l'instant, à Necker, il n'y a pas de lit temps plein d'hospitalisation pédopsychiatrique. Ça fait partie des projets qui verront le jour, je l'espère, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais même le jour où il y aura une hospitalisation temps plein de pédopsychiatrie, ça ne veut pas dire que tous les patients posant des problèmes psychopathologiques à propos de leur maladie somatique devront y trouver une place là. Leur place est en pédiatrie. Alors ce sont des patients qui sont parfois vus par l'équipe pédiatrique comme des patients un peu différents de leurs patients pédiatriques habituels. Il n'empêche que leur place est en pédiatrie, mais leur place est en pédiatrie avec une équipe pédiatrique suffisamment soutenue pour la réflexion psychopathologique, et ce sera une des fonctions de cette infirmière.
C'est vrai qu'actuellement, nous sommes la pédopsychiatrie est accueillie. Et là, il faut remercier le professeur Lenoir et son service. Il nous accueille très régulièrement au sein du service de pédiatrie générale. Et on fait avec eux un travail difficile, complexe, mais de qualité.
Ma remarque visait en particulier les enfants ou les adolescents qui font des tentatives de suicide. C'est vrai qu'un certain nombre d'entre eux, s'il y avait des lits d'hospitalisation temps plein pédopsychiatrique, pourraient y être accueillis, mais même quand ces lits existeront, il y a aussi des enfants suicidants qui ont leur place en pédiatrie, si l'équipe pédiatrique est suffisamment...
Pour moi, c'est une approche des tentatives de suicide de l'adolescent, on n'y dira pas trop, qui est essentielle. C'est-à-dire que les tentatives de suicide de l'adolescent ont leur place en pédiatrie générale, parce que là, il y a un travail spécifique, et je veux dire, là, il faut aussi...
Un travail spécifique.
Et une approche spécifique du corps qui ne peut se faire que dans un service pédiatrique avec des infirmières qui vont avoir une approche du corps de l'adolescent qui vient d'être meurtri et maltraité par son geste, et bien une approche corporelle extrêmement importante. Et là aussi, c'est l'équipe du professeur Lenoir et la salle Paro qui accueille avec un protocole que nous avons mis en place depuis maintenant plus de 10 ans sur la prise en charge, qui a révélé de son efficacité, notamment dans la prévention des récidives.
C'est-à-dire qu'un adolescent qui se suicide, il y a besoin d'une attention psychopathologique soutenue, mais pas toujours d'une psychiatrisation. Ce qui rejoint les remarques de Philippe Jamais, qui dit qu'en gros, 20% des adolescents sont en grande souffrance psychique. Ça ne veut pas dire qu'il y a 20% de psychopathologie psychiatrique. Peut-être que dans la dernière partie de cet entretien, il faut accorder un petit peu de temps à la question de la formation et de la transmission. Et en venant à Necker, c'est aussi une des choses qui m'a porté un petit peu sur ce terrain de la pédopsychiatrie de liaison. C'est-à-dire qu'il me semble que les étudiants ont besoin qu'on les forme, et nos collègues pédopsychiatres ont besoin de pouvoir échanger avec nous. Et je crois que c'est très important de pouvoir le faire, pas seulement dans le feu de l'action, mais aussi un petit peu à distance, à froid, et avec du recul, et un petit peu d'après-coup. Alors depuis 2 ans, avec Pierre Canoui, on a donc mis en place un certificat de pédopsychiatrie de liaison à l'usage, à l'intention des étudiants en médecine du CHU, du GHU maintenant. C'est un certificat optionnel qui a eu tout de suite beaucoup de succès. Les étudiants donc font ce certificat, et alors on leur donne un certain nombre de notions théoriques, celles qui sont les nôtres quant à l'articulation des modèles pédiatriques et modèles psychopathologiques, mais on prend aussi des histoires médicales, en leur montrant le cheminement de pensée, le cheminement conjoint entre soignant du corps, soignant de la psyché, les difficultés, les divergences qu'il y a pu avoir, les conflits. J'espère beaucoup que dans l'avenir on pourra, lors de ces séances de travail de cas dans l'après-coup, faire venir des pédiatres pour réfléchir avec nous dans un temps second. Et puis, il y a une autre initiative qui a été prise et que je voulais signaler, qui est plus sur le plan universitaire qu'hospitalier, mais ça va ensemble, c'est que donc depuis 3 ans, en cohabilitation avec l'UFR Sciences Humaines Cliniques de Paris 7, avec les professeurs Alain Vanier et Daniel Brun, on a mis en place un DEA Maintenant, c'est un master, cohabilité donc par Paris 7 et Paris 5. Paris 5, c'est l'UFR Necker en femmes malades. Un master qui s'intitule médecine scientifique, sciences du vivant et psychopathologie, et qui est inclus dans l'école doctorale de Paris 7, recherche en psychanalyse, dirigée par Sophie Demijola-Mellor. Ça, je crois que c'est une initiative très importante, qui remet la psychopathologie psychanalytique en position importante dans le troisième cycle, dans un troisième cycle ouvert aux psychologues, mais ouvert aux médecins aussi, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps dans le paysage parisien, en tout cas français. Et il y a là donc tout un courant de recherche possible au niveau des DEA, au niveau des doctorats, justement dans des domaines à l'interface des services de pédiatrie, des services du travail des psychologues et des pédopsychiatres. Et je crois que là aussi, c'est une opportunité de formation et de transmission extrêmement importante entre nous.
Il y a deux idées que je voudrais dire pour terminer cet entretien, peut-être. C'est-à-dire que j'ai été amené à travailler sur deux domaines qui étaient au fond, qui paraissaient périphériques, mais qui sont devenus très, très, très importants dans ce travail de pédopsychiatrie liaison. C'est-à-dire, d'une part, on en a parlé tout à l'heure, la question de la mort. La question de la mort à l'hôpital, la question de la mort transférée de la cité à l'hôpital, et le poids sur les soignants, et le sens, que si tant est que la mort puisse avoir un sens, le sens qu'on pouvait donner dans la fin de vie possible de l'enfant, l'accompagnement du deuil. Et là, je dois dire que le travail des psychologues qui m'ont précédé dans le service de réanimation et des psychologues qui sont encore actuellement est absolument fondamental. Et puis la deuxième question, c'est la discussion. On a apprendre à discuter ensemble. Et c'est pas simplement discutailler, c'est apprendre à discuter, à s'écouter. Et justement, quand on se trouve dans des situations où la maîtrise rationnelle de la maladie échappe et qu'on rentre dans ce que Michel Crozier appelle la démaîtrise, eh bien à ce moment-là, il faut encore plus apprendre à discuter entre nous, non plus simplement du dossier médical, mais de toute la dimension humaine, c'est ce qu'on a appelé l'éthique. D'accord. Apprendre à discuter à partir du moment où on est dans ces frontières du ben, « je ne sais plus, mais il faut quand même que j'apprenne apprenne à avoir une direction possible et qu'il soit encore dans ce plus d'humanité contre laquelle la maladie nous fait buter. »
Alors tu as parlé de la mort et je pensais que tu allais parler aussi de la souffrance. Et il y aura à réfléchir aussi au lien que notre cellule de pédopsychiatrie de liaison peut avoir avec l'unité douleur de l'hôpital, puisque l'unité douleur, la question de la douleur est par essence transversale aussi, et vraiment à l'interface du physique et du psychique. Bon, peut-être qu'on reprendra ça une autre fois. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que la pédopsychiatrie de liaison, comme toute discipline nouvelle, relativement nouvelle d'ailleurs, ne secrète pas ses propres, ne secrète pas automatiquement ses propres repères éthiques. Aucun savoir ne secrète spontanément ses propres repères éthiques. Et dans notre travail de théorie de la liaison, je crois que c'est à nous d'essayer une éthique au quotidien, bien entendu pas une éthique transcendantale qui va tomber du haut sur notre équipe, mais du dedans, comment est-ce qu'on peut, au fil des actions, au fil des interventions dans les services, avec les équipes de manière collective, mais collective vraiment autour de l'enfant, comment on peut dégager quelques repères éthiques qui nous guident dans ce qu'on a à faire ou à ne pas faire.